We would like to welcome everybody near and far on this wonderful day, the day of the Lord.
Nous aimons souhaiter la bienvenue à tout le monde qui sont loin ou qui sont proches en ce jour de dimanche, un jour merveilleux, le jour du Seigneur. Dimanche est le jour où les premiers chrétiens, pendant le règne des Romains, ils se retrouvent quand ils étaient persécutés, ils se retrouvèrent et ils glorifiaient le Seigneur. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que les chrétiens, on peut avoir de la critique au point où on peut aller contre Dieu et contre son royaume. Et aujourd'hui, certains chrétiens diraient que vraiment, si c'était aujourd'hui, que attendez un peu, est-ce que vraiment vous voulez vous rassembler dans des coins souterrains sous les tombes? Et c'était le seul endroit où les premiers chrétiens, pouvaient se retrouver sans être persécutés, sans que personne ne remarque, ne s'aperçoive. Et aujourd'hui, nous recherchons la face de Dieu, nous tous, qu'on écoute, qu'on parle, qu'on soit à la technique pour la retransmission de ce culte. Nous tous, nous recherchons la face du Seigneur. Alors inclinons nos têtes et prions ensemble. Seigneur, quel privilège, au-delà de tout privilège, d'être en ta présence. Ouvre nos yeux spirituels, nous te demandons. Ouvre nos oreilles spirituelles, afin qu'on te voie et qu'on entende ta voix pendant ce moment. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais parler en ce jour sur le thème « Entendre la voix de Dieu ». Et le départ, c'est un chant qui a été sur mon corps pendant tous ces jours. Et c'est cela qui me pousse à parler sur ce thème. Mais vers la fin ou un peu plus tard, je vais reparler sur ce thème ou sur ce chant. Entendre la voix de Dieu. Pendant cette période de la COVID-19 et avec ses difficultés, vous aidera non seulement à vous protéger pendant cette période. Et ça vous aidera aussi à atteindre, à servir un but pendant cette période où vous avez peut-être du mal à ne rien faire. Vous avez du mal. Je ne sais pas si nous tous on se rend compte du privilège que nous avons d'entendre la voix de Dieu. Je ne vais pas l'oublier. Il y a des années en arrière, j'étais ici à une méditation du soir. On était autour de 600 ou 700 personnes réunies ici à la réunion et avec des lumières qui éclairaient. Et un petit criquet est entré et sur la moquette devant tout le monde. Et toutes les personnes qui étaient assises aux deux premières rangées de bancs pouvaient tous voir ce criquet. Mais ce petit criquet ne s'apercevait de rien du tout de tous les yeux qui étaient sur lui. Il faisait tout ce qui était à son possible de faire attention. Il prenait quelques pas et s'arrêtait. Et peut-être ces deux antennes aussi bougeaient pour savoir est-ce qu'il n'y a pas un danger quelque part ici. Il est entré ici, dans cet auditorium, complètement, il n'était pas sans savoir ce qui se passait dans cet auditorium. Il ne savait pas que c'était un bâtiment, un temple construit par les mains des hommes. Il ne pouvait même pas l'imaginer que l'ingénieur qui était derrière cette construction de ce bâtiment. Il ne connaissait même rien de cette moquette sur laquelle il marchait. Il ne connaissait rien de tout cela. Il ne connaissait rien des bancs, comment tout cela a été organisé, coupé et assemblé et apporté ici, amené ici. Il a seulement fait son entrée et alors qu'il marchait dans la salle, je me suis dit, Seigneur, n'est-il pas là une symbolique d'un homme qui est né dans ce monde et qui commence à marcher dans ce monde et qui ne connaît rien de tout ce qui se passe? La différence entre le petit cerveau de ce petit criquet et le cerveau et le cerveau des personnes qui étaient derrière cette œuvre, et il n'y a aucune différence entre leur cerveau et notre cerveau. Quand on compare cela au cerveau ou à la pensée du Seigneur. Mes amis, nous n'avons aucune idée de ce que Dieu voit, ce qu'il pense pendant que nous sommes en train de marcher dans ce monde. Même si la COVID-19 vient dans ce monde, nous ne savons aucune idée ou pensée de ce que Dieu a en lui. Et toi et moi, on peut marcher tranquillement en cherchant à cacher nos péchés, en les cachant pour que personne ne les remarque. Et on se rend pas compte que, on ne se rend pas compte que nous sommes devant une grande lumière du ciel où Dieu est sur le trône et où l'armée du ciel et tous les témoins nous remarquent, nous voient, comme ils voient comment on entre et ils voient comment on veut faire poser nos pas ou faire ce qu'on veut. Toi, mon ami, qui est assis dans son péché et continue pour cacher son péché, tu es aussi insensé que ce petit criquet qui pensait être en sécurité, mais sans se rendre compte qu'il y avait 600 paires des yeux qui étaient en train de le regarder. Tout le monde l'a bien vu marcher dans la lumière. Oh, combien insensé est cet homme qui passe toute sa vie dans ce monde sans connaître Dieu et sans marcher avec le Dieu vivant. Si cela était possible ce soir-là, quand ce criquet-là est entré ce soir-là, de parler à ce criquet pour que ce criquet la comprenne, cela serait similaire pour nous d'apprendre à écouter quand le Dieu des cieux et de la terre nous parle. Peu importe, mon ami, ce que Dieu te dit, c'est un privilège d'entendre la voix du Créateur des cieux et du ciel, de te parler, toi, d'entendre sa voix, de te parler, toi qui es un simple être humain. Il y a quelque chose d'étrange quand il s'agit d'entendre la voix de Dieu. C'est une voix divine et on ne peut pas l'expliquer avec notre logique humaine. Par exemple, comme Caïn, quand Dieu a dit à Caïn, fais attention à ton péché, tu vas tomber dans le péché. Que tu sois Moïse dans le buisson ardent, que Dieu te parle, qu'il te dise « Repars en Égypte et sauve mon peuple ». Que tu sois Paul qui est tombé de son cheval et qu'il entende Dieu lui dire, Paul, Paul ou Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? «
Mes amis, c'est le ciel sur la terre que d'entendre la voix du Créateur te parler. Et quand il nous parle, c'est inhabituel, ce n'est pas comme la voix d'un être humain. Des fois, quand il te parle, il vient te convaincre ou il vient te frapper ou t'illuminer la méchanceté de ton cœur pour que ces choses te soient claires devant toi. Tu seras convaincu combien tu es méchant quand Dieu te parle. Combien tu es malheureux que tout ce que tu mérites, c'est que l'enfer à cause de la méchanceté qui habite en toi. Même quand tu es et quand tu te brises devant Dieu en voyant ta méchanceté, quand tu pleures à Dieu pour sa grâce, cela ne doit pas t'entraîner à perdre l'espoir et pour te détourner du Seigneur. Ça doit apporter des remords. Ça doit apporter en ton corps des remords pieux pour t'entraîner à Dieu, parce que les remords, selon ce monde, apportent à la mort. Alors que les remords, selon ce monde, apportent à la mort, mais les remords, selon Dieu, apportent à la vie. Et c'est pareil que cet homme qui n'était rien sur la croix, il n'était rien, mais il a eu espoir quand il a entendu le Seigneur lui parler. Il a entendu, il a eu espoir qu'il sera au ciel. Bien que les remords, selon le Seigneur, selon Dieu, ne nous entraînent pas à tout abandonner et à tout quitter, Et voilà le mystère. Mais ça ne te donne pas au même moment le feu vert et dire que je peux simplement continuer à vivre dans mon péché. Parce que Dieu pardonne mes péchés. Une personne qui librement pêche en disant que j'ai reçu le pardon, cette personne-là n'a pas encore entendu la voix de Dieu. La voix de Dieu vient te convaincre de la méchanceté de ton péché et t'amène à faire très attention et très motivé pour ne plus péché. J'aimerais qu'on regarde tous à un passage pratique dans la Bible. Il y a plusieurs exemples dans la Bible qu'on pouvait citer. Mais j'aimerais qu'on regarde à un homme qui a entendu la voix de Dieu. Alors que vous écoutez la parole de Dieu aujourd'hui, rappelez-vous, aux yeux de Dieu, tu es plus petit que ce petit criquet. Dieu est assis là, il te voit venir dans ce monde. Tu planifies autant que cela est possible pour toi pour traverser toute cette pièce. En décidant quel emploi ou travail que tu veux faire. Et Dieu, alors, il est assis au ciel et il pense, il dit, mais pourquoi ne me demandes-tu pas quel travail tu veux faire? Et toi, jeune homme, tu regardes, tu observes quelle jeune fille sera la bonne pour toi. Et Dieu regarde en bas vers toi et il te dit, mais pourquoi ne me demandes-tu pas de choisir une femme pour toi? Toi qui penses que, oh, personne ne me veut, peut-être je ne vais pas me marier. Dieu dit, sois heureux de la manière que j'ai organisé les choses pour toi. Ne recherche rien de tout ce que je n'ai jamais pensé ou planifié pour toi. Et que ta vie soit ouverte et soit dans la lumière. Que le péché de ton cœur et les pensées et tes pensées soient ouvertes à la lumière. Si vous et moi, nous sommes vraiment, est-ce que nous sommes vraiment conscients du Dieu vivant qu'on sert, que nous servons? C'est pourquoi aller chez un autre être humain et reconnaître nos péchés et lui demander la prière n'est rien. Rien du tout devant Dieu quand nous venons en présence de Dieu pour apporter notre vie à lui. Alors qu'il connaît toutes choses. Mes amis, c'est là un remède, un traitement, un médicament qui t'aidera à abandonner ton péché. Garde en toi, dans ta pensée, à chaque fois que je vis devant Dieu, que tout le temps pendant que je vis, il voit les pensées de mon cœur, il voit les plans de mon cœur ou les projets de ma vie. Nous allons regarder à l'exemple de Noé dans Genèse chapitre 6 au verset 12. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Est-ce que Dieu t'a déjà montré ta vie ainsi, de cette manière? Là où tu te rends compte que j'ai su corrompu. Et j'ai perdu ma véritable direction. Au verset 13. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi. car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Des fois, je me demande si Dieu n'a pas envoyé cette plaie, ce virus, ce corona, parce qu'il s'est rendu compte qu'on est devenu violent, on est plus honnête, on est devenu immoraux et méchant. Dieu voit que comme ces petits criquets-là qui vivent dans ce monde-là, qui mènent leur vie, et ils mènent leur vie sans le Seigneur. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Le savez-vous que parmi les 10 villes les plus dangereuses du monde, 5 villes d'Afrique du Sud en font partie. Cinq des 10 villes où il y a plus de criminalité dans le monde sont les villes de l'Afrique du Sud, 5 villes en Afrique du Sud. Et les gens se plaignent, pourquoi on nous autorise pas à prendre l'alcool, pourquoi nous ne pouvons pas faire ceci, cela. Et au-delà de tout cela, ils commencent à prendre du cannabis, en croyant aux mensonges. Je le dis encore, ils croient aux mensonges, en pensant qu'il y a quelque chose de bon, il y a le bien qu'il trouve en prenant le cannabis, en fumant du cannabis. Les pays où on a légalisé le cannabis, les accidents de voitures ont escaladé, ont augmenté. Dieu continue à parler au verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'endureras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Je ne vais pas continuer avec les détails ou les mesures que Dieu a données en détail à Noé. Vous Vous savez combien de temps nous avons été déjà confinés pendant cette période de Covid. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes déjà au 120e jour. Savez-vous combien de temps Noé et sa famille ont passé dans l'arche? Ils étaient dans l'arche pendant 377 jours. L'année est composée de 365 jours ou sinon 366 jours. Mais Noé était pendant 377 jours dans l'arche. Tout d'abord, il a attendu pendant 7 jours dans l'arche avant que la pluie commence. Je ne sais pas ce qui s'est passé parmi sa famille. Voilà que tu as eu cette idée vraiment bizarre que maintenant on est assis là dans l'arche et la pluie ne vient pas. Et il a commencé à pleuvoir et pendant 150 jours, et encore après, pendant 110 jours, l'eau a commencé à baisser jusqu'à ce que l'arche s'est posée sur le mont Ararat. Et encore après 40 jours, la terre pouvait être visible. C'est au chapitre 8, au verset 5 à 6. Et pendant 3 semaines, Noé envoyait la colombe pour aller inspecter et la colombe revenait, mais jusqu'au jour où la colombe n'est jamais revenue. Et Noé a dû attendre encore pendant 3 mois jusqu'à ce que toute la terre soit séchée. Et il y a lieu encore après cela un autre mois où lui et ceux qui étaient avec lui ont attendu pour descendre de l'arche. Donc il leur a fallu 377 jours depuis le jour qu'ils sont montés dans l'arche jusqu'au jour où ils sont sortis de l'arche. Mais Dieu avait une raison et un but pour tout cela. Heureux, heureux, heureux est cet homme qui entend la voix de Dieu. Qui peut entendre la voix de Dieu qui dit « Construis l'arche et va avec ta famille ». Lorsque Noé a entendu la voix de Dieu, il y a eu pour moi beaucoup de ressemblances entre le temps de Noé dans l'arche et le temps du Covid que nous traversons en ce moment. Noé a dû s'accorder aux instructions pratiques de comment il devait construire l'arche. Sinon, l'arche ne pouvait pas flotter. On reçoit des instructions strictes comment être pour que nous soyons en sécurité pendant cette pandémie. Mais les gens sont en train de se rebeller contre cela à gauche, à droite, dans tous les sens. Ils ne veulent pas écouter. Je ne dis pas que même si nous nous accordons aux instructions ou aux règles, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas, par accident, s'attraper le virus. Mais au moins, vous le saurez que vous avez donné le meilleur de vous-même en gardant les instructions qui vous ont été données. Nous avons répété les instructions ici, dans ce pupitre, ou sur ce pupitre. Gardez votre distance. Le virus peut nous atteindre soit en respirant le virus au-dedans de nous ou en touchant un endroit avec nos mains ou par les yeux si quelqu'un vient tousser devant vos yeux. Si ça a touché vos mains et vous touchez votre visage et de vos mains, ça peut entrer dans votre bouche, dans votre nez ou dans vos yeux. Portez le masque. Pour que vous n'inspirez pas les bactéries et toujours désinfectez vos mains pour que vos mains soient toujours propres. Ayez toujours la bonne distance entre vous et votre prochain ou quelqu'un d'autre pour que si la personne vienne à tousser, que la personne ne tousse pas et que ça n'entre pas dans vos yeux ou dans votre nez. Noé a dû s'accorder aux instructions pour construire l'arche selon les recommandations que le Seigneur lui avait données. Mais il y avait encore plus de grâce pour Noé. Mais vous savez, très souvent, nous ne remarquons pas cela. Ce n'est pas vraiment la discipline extérieure, comment on se comporte, on se conduit avec son corps. Mais c'est une discipline intérieure. C'est de prendre soin de son cœur pour que ton cœur reste ou demeure pur. Vivre pendant un an devant le visage de chacun des uns des autres, sans permettre qu'il n'y ait de l'irritation ou sans permettre qu'il y ait le péché qui s'infiltre. Et s'il y avait cela, Dieu les abandonnerait, Dieu se détournerait d'eux. Il devait les laisser seuls dans cette arche. Si la belle-fille permettait des pensées sur sa belle-mère en disant « Oh, elle est comme ceci, elle est comme cela », ou encore la belle-mère permettant des mauvaises pensées dans son cœur contre sa belle-fille, elle est peut-être ceci, elle est peut-être cela. Mes chers amis, oui, tu dois te garder pur, tu dois avoir l'hygiène et pour te protéger du virus. Mais assure-toi réellement que Dieu est au milieu, est avec toi et que la bénédiction de Dieu est au milieu de nous. Sinon, dans l'arche, il se passerait l'arche deviendrait comme l'enfer sur la terre. Je vous le dis. Et cela, peut devenir insupportable dans l'église de Dieu si Dieu n'est pas au milieu de nous et si on ne continue pas avec des cœurs purs. Il pouvait y avoir un grand enfer dans l'arche, plus grand que l'enfer qui se passait en dehors de l'arche, quand les gens qui criaient, qui pleuraient, qui mouraient. L'église peut devenir un endroit insupportable parce que nous permettons le péché au milieu de nous. Où la personne pense « je préfère sauter et me noyer que de rester avec ce groupe ». Faites très attention, mes amis, faites très attention, afin que Dieu ne retire pas sa main au milieu de vous. C'était peut-être le ciel sur la terre dans l'arche, mais ça peut aussi devenir l'enfer sur terre dans l'arche. Et des fois dans des familles, des fois dans l'église, ça devient très insupportable, plus que ce qu'on peut expérimenter dans le monde. Parce que nous sommes très jaloux les uns des autres. Nous nous jugeons les uns les autres. Et on permet le péché au milieu de nous. Et on est assis et on s'envie les uns les autres. Les péchés les plus insupportables et impensables existent dans l'Église. Nous ne savons pas tout ce qui s'est passé pendant tout ce voyage dans l'arche. La Bible dit que les sources que les sources de la terre se sont ouvertes et l'eau est montée depuis la terre. Et ce n'était pas seulement de l'eau qui venait d'en haut. Et cette arche pouvait peut-être être emportée par une vague et être pénétrée dans l'eau et regagnée par une autre vague. Et il pouvait peut-être s'enrouler dans l'arche et perdre leur direction et peut-être même perdre conscience. Nous ne savons pas. Il pouvait peut-être avoir un rocher quelque part. Et que par une grande vague, l'arche pouvait peut-être cogner le rocher et avoir une ouverture et l'arche pouvait commencer à couler. Ce n'est pas toujours facile comme les choses ont l'air à l'extérieur. Mais en toute chose, il devait toujours être uni et dans l'amour. Et comme Paul le dit, que l'un doit toujours estimer les autres comme meilleurs que lui. Regardez autour de vous, une personne que vous considérez le moindre. Que Christ a dit ce que vous avez fait à ce plus petit. C'est à moi que vous avez fait cela. Mais il y a une autre caractéristique que tous avaient besoin d'avoir. Tous avaient besoin de garder la foi. Permettez-moi de le dire encore. Tous devaient garder leur foi. Parce que la construction de l'arche était quelque chose de bizarre, quelque chose d'étrange. Personne n'avait jamais expérimenté une telle chose avant. Et il n'y avait personne aussi en dehors d'eux, qui pouvaient s'accorder avec eux. Vous savez ce qui pouvait arriver. Mais malheureusement, cela se passe dans l'église de Christ. Ils pouvaient perdre leur foi. Dans l'arche, ils pouvaient perdre leur foi. Vous savez, quand on perd notre foi, on va se retourner les uns contre les autres et on va commencer à s'attaquer les uns contre les autres. Si on ne garde pas notre foi avec Noé et se tenir ensemble avec Noé, on se serait retourné contre Noé. Faites très attention, mes amis. Est-ce que le diable n'a pas encore peut-être réussi à te dérober, de te voler ta foi au point où tu ne crois plus, tu doutes, tu dis « ça, c'est peut-être pas de Dieu ». Être différent du monde. S'habiller différemment du monde. Avoir la musique qui est différente du monde. Nous sommes une poignée de mains, de personnes. Nous sommes juste un point, une petite tache. Le monde entier a pris une autre direction. Qui peut me le dire que Noé a vraiment compris la vérité de Dieu? qui ne peut... Qui me dira peut-être que Noé n'a peut-être pas là perdu la tête en pensant à cette histoire de l'arche. Et au-delà de tout cela, avec les vagues, l'arche sera ballottée, poussée, cognée de tous les, dans tous les sens. Et on va commencer à se marcher sur... les pieds les uns des sur les pieds des autres, les pieds des autres. Et le diable va commencer à utiliser cela, que voilà, je me tenais là, et puis voilà, il vient dans son coin, il vole, il vient tomber sur mes pieds, il me cogne. Alors que je me tenais sur ce poteau-là, je le tenais fort, lui il vient me cogner, et puis... Où est-ce que tout cela a commencé? Ça a commencé par un homme ou avec un homme qui a pu entendre la voix de Dieu. Je ne sais pas si avant j'ai déjà vraiment entendu des personnes... parler beaucoup en disant que avant je n'ai jamais entendu autant de voix que je l'entends aujourd'hui avec cette COVID-19. Tout le monde a sa manière d'analyser que voilà d'où vient le virus, d'où il va et ce qui se passe. Tout le monde entend et fait ce qu'il veut. Mais vous et moi, mes chers amis, nous devons savoir qu'il y a un Dieu au ciel qui a permis cela. Et cela t'assurera la paix et tu seras ferme dans ce que tu as à faire. Je vais maintenant parler du chant qui m'a amené à parler de ce thème. Et je ne sais pas combien de fois j'ai écouté ce chant et ça me revient toujours dans la tête. Et ça parle d'entendre la voix de Dieu. Ça a été écrit par William Carper. William Carper était un bon poète en Angleterre. Dans les années 1700, j'ai déjà parlé de lui à un moment donné. Il a traversé pas mal de difficultés. Et à travers tout cela, il a, d'une manière, perdu sa pensée. Et pendant 3 ans, dans les années 1700, il était dans une... Il était dans un centre de personnes qui avaient des problèmes mentaux et un homme l'a aidé et c'était John Newton. Et c'est l'homme qui a composé le chant de la grâce merveilleuse, Amazing Grace. Il dit, j'étais perdu, maintenant je suis trouvé. Sur... Et William Carpet a retrouvé ses sens. Il a été lucide à nouveau et ensuite il a écrit ce chant. Le premier couplet dit: accepte mon cœur, écoute mon cœur, c'est le Seigneur. Pardon, il a dit: veille mon cœur, sois vigilant maintenant, de peur que tu ne manques cela, de peur que tu ne passes à côté de cela. C'est comme si il appelle son âme pour se lever et être prêt et vigilant. Parce que c'est le Seigneur qui parle ici. Et la voix vient à toi et à moi. Et quand tu entends cette voix dans ton cœur, c'est très intime. Et tu te rends compte que cette voix-là me parle moi. Et c'est Dieu qui me parle. Il parle à son âme. Il dit, si quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre lui dit, attention, mon âme, veille sur ce qui se passe en ce moment. Et cette voix surpasse tous les bruits autour de toi. Et tu te rends compte que vraiment, cette voix me parle moi. C'est Dieu qui me parle. Mes amis, ça peut arriver à quelqu'un lorsque tu es occupé avec des péchés les plus terribles dans les ténèbres. Dieu n'oublie pas le pécheur. Il va vers le pécheur dans ses moments les plus difficiles, dans son péché, dans ses profondeurs de péché. Et il y a beaucoup de bruit autour de lui. Et Dieu vient et il parle. Et pendant un moment, tu te rends compte que, tiens, il y a quelque chose de particulier dans cette voix, mais c'est Dieu qui me parle. Tu peux être dans la chair, tu peux être une personne charnelle, tu peux peut-être désirer plus de péché pour aller plus en profondeur dans le péché. Tu peux être même dans les secrets les plus profonds de Satan. Tu peux être le pire des satanistes. Tu n'es que toujours qu'un petit criquet aux yeux de Dieu. Bien que Satan te dise que tu es très puissant, tu as cette puissance pour guérir les hommes. Ton fétiche est le meilleur et le plus grand des fétiches. Tu peux avoir un sac de péché derrière toi. Dieu ne prend pas, ne fait aucun cas de tout cela. Il va venir à toi, aussi pécheur comme tu l'es. Et subitement, tu te rendras compte que « Fais attention, mon âme, attention, mon âme !» Mais c'est le Seigneur qui parle. Tu peux être en pleine bataille que tu es en train de combattre. Peut-être tu te dis que tu es en train de devenir fou et que tu as du mal à contrôler tes pensées pour survivre. Tu as du mal à garder ta tête au-dessus des eaux et tu n'as pas le temps de penser à autre chose. Et ici, et voilà que de nulle part, voilà cette voix qui vient, qui arrive, et tu te rends compte qu'elle est différente des autres voix. Et c'est très facile de manquer cette voix, et on peut ne presque pas l'entendre. Mais ça vient avec plein d'amour, très positive. Tu ne peux pas le croire que Dieu peut me parler avec plein d'amour après tous ces péchés que j'ai commis. Mais quelque chose, tu ne sais pas ce que c'est, qui te dit, fais attention, mon âme. Bien qu'il y a plusieurs activités là auxquelles tu es occupé, tu t'efforces à ne pas te noyer, mais la voix te dit, arrête-toi, mon âme. C'est le Seigneur. Il y a peut-être d'autres voix qui crient dans tes oreilles. Ton ego, ton orgueil que tu as envie de sauver, tu n'as pas envie de les perdre. La voix de l'estime en soi te dit voilà, les gens ne vont plus t'estimer si tu écoutes cette voix. Et la voix de l'argent, des finances parle aussi dans tes oreilles. Ta famille qui te dit c'est notre culture. Ne trahis pas ta famille. Ne trahis pas tes ancêtres. C'est notre culture. C'est notre nation. Ne trahis pas cela. Mais cette voix te dit, fais attention, mon âme. Écoute, mon âme, c'est le Seigneur. Tu te rends compte le Seigneur, le maître, tu te rends compte que notre Seigneur, il a autorité, il a le pouvoir sur tout ce qui se passe autour de toi. Il a ta vie dans sa main, il est Seigneur. Ta santé est dans sa main parce qu'il est Seigneur. Ce n'est pas un autre esprit ou une autre personne qui te parle, mais c'est le Seigneur qui te parle. C'est comme le commandement qui vient d'un ange, un ange qui te dit « Sois sur tes pieds et sois sur ta position. » C'est le Seigneur qui vient, qui est là. Il dit « Mon âme, fais attention, écoute, c'est le Seigneur, écoute sa parole, ça continue. » Ce n'est pas seulement le Seigneur. Il est aussi ton sauveur. Il peut te sauver des pires des péchés dans lesquels ou dans lesquels tu es tombé. Et en voilà maintenant la grande surprise. Ce n'est pas seulement que le Seigneur t'a passé, t'a abandonné, et que tu as été en sa présence pendant quelques secondes. Mais il dit, non, voilà ton sauveur, écoute sa parole. Est-ce que cela est possible, que ce petit criquet que je suis moi, que Dieu a une parole pour moi? As-tu déjà entendu cette voix, cher ami? Où tu te sens, et où, au point où tu te sens te cacher même dans un trou, parce que tu te rends compte que tu n'es pas digne d'entendre sa voix. Voici ton sauveur, le voilà, écoute sa parole. Voici. Et quand Dieu vient et te dit, la voix te dit, c'est ton sauveur, écoute sa parole. Et il va te montrer tous les péchés. Il va te montrer tous les péchés, l'un après l'autre, que tu as commis. Sans doute que ce homme est sorti de ce centre de fou et il s'est rendu compte de son état. Quand Dieu te dit écoute, fais attention, c'est qu'il a une parole pour toi. Oh Seigneur, cela pouvait être suffisant. D'être en ta présence, mais au-delà de cela, Dieu a une parole pour moi, Seigneur. Moi. Jésus parle et te parle, toi. Qu'est-ce que le Seigneur te dit à toi? Te dit, pauvre pécheur, ne m'aimes-tu pas? Nous devons avoir de l'amour pour lui. Il dit, pauvre pécheur, m'aimes-tu? Parce que tu es pauvre pécheur. Peu importe de combien tu t'es senti grand à tes yeux, peu importe combien tu as été riche, peu importe combien tu as été puissant, à ses yeux, tu n'es que pauvre pécheur. Juste pour un pauvre pécheur. Et il dit, pauvre pécheur, m'aimes-tu? Seigneur, comment peux-tu demander cela? Je suis pécheur. Je t'ai haï. Toute ma vie n'a été qu'une malédiction à ton égard. Comment peux-tu me demander si je t'aime? Mais il le dit parce qu'il voit qu'il y a de l'espoir, il y a espoir pour toi. Même si les gens t'ont abandonné et ils ont conclu qu'il n'y a plus espoir pour toi. Mais lui, il a encore espoir pour toi, il a encore de l'espoir pour toi. Et il dit, pauvre pécheur, m'aimes-tu? Il utilise aussi le mot pauvre comme compassion. Toi, petite chose. Il a pitié de toi. Le sais-tu, mon ami, que tu ne peux rien faire dans ce monde? Qui te disqualifie? Il n'y a rien que tu puisses faire dans ce monde qui te disqualifie au point où Dieu ne pourra jamais te dire... Pauvre pécheur, m'aimes-tu? Il n'y a rien qui te disqualifie. Pareil que lorsqu'il a parlé à Pierre, lorsque Pierre l'a abandonné, trois fois Pierre a dit, je ne connais pas cet homme. Et il est venu vers Pierre, il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Trois fois, il lui a demandé, Pierre, m'aimes-tu? Dis-moi, mon ami. Oui, je sais que tu es pécheur. Oui, je sais que tu es rempli de haine. Mais il y a une seule personne que tu peux encore aimer. Un seul homme que tu peux encore aimer. Celui qui a donné sa vie au calvaire et qui a répandu son sang pour toi. Il est toujours celui que tu peux aimer. Et avec cela, l'amour que tu as pour le Seigneur Jésus-Christ donnera la force de vivre une vie pieuse et au-dessus du péché. Et savoir dire non au péché. Je vais lire le dernier couplet sans explication. C'est le Seigneur qui parle encore. Je ne savais pas que je prêcherais ce serment sans être plein d'émotions. Le dimanche dernier, quand j'ai pensé à la réunion, je me disais que je ne pouvais pas prendre cette réunion parce que je serais plein d'émotions. Je dis, je t'ai délivré quand tu étais lié et quand tu t'es blessé, j'ai guéri tes blessures. Je t'ai aidé, je t'ai cherché, je t'ai trouvé et je t'ai remis en or et j'ai tourné tes ténèbres en lumière. Est-ce que une maman peut perdre l'amour pour son enfant qu'elle a donné naissance? Oui, elle peut l'avoir. Elle peut abandonner cet enfant, mais moi, je me rappellerai toujours de toi. Mon amour est un amour inconditionnel, il ne change pas. Il est au-dessus de toute chose. Il est plus profond que les profondeurs en dessous. Cet amour est fidèle et plus fort que la mort. Je vais lire deux autres lignes dans un autre verset ou couplet. Quand l'œuvre de la grâce est accomplie, Dieu accomplira toujours son œuvre de grâce dans ta vie et dans ma vie. Dieu dit que je te garderai dans ce monde parce que j'ai encore l'œuvre de la grâce qui doit encore être accomplie dans ta vie. Et quand on pense à l'œuvre de la grâce, on pense à la paix, on pense à la miséricorde et on pense au pardon, à être pardonné. Mais mes amis, il y a quelque chose de très dur quand on reçoit la grâce de Dieu. Je vais maintenant vous lire une pensée d'un homme, l'homme qui a aidé William Cowper, John Newton. Il a écrit ce chant merveilleux, Amazing Grace. Ta grâce est merveilleuse. Quand il a été sauvé, il a écrit ce chant. Mais il y avait toujours une œuvre de grâce qui devait être accomplie dans sa vie. Et mes amis, c'est ce travail de grâce qui doit continuer dans notre vie. Sinon, on serait sauvés seulement pour être dans l'arche avec Noé. Mais dans l'arche, on devait causer des problèmes. On devait se causer des problèmes les uns les autres. Parce que je n'ai pas encore été brisé. Parce que la grâce de Dieu n'a pas encore tout accompli dans ma vie. Donc quand vous lisez l'Amazing Grace, la grâce merveilleuse, on peut dire que c'était tout, et après cela, John Newton a eu une bonne vie. Jusqu'à ce que Dieu ait commencé son œuvre de grâce. Désolé que je lis beaucoup, permettez-moi de lire ce verset. Il dit, j'ai demandé au Seigneur pour que je grandisse dans la foi et dans la vie et dans l'amour et dans toute grâce. Que je connaisse plus ou davantage de son salut et plus et encore que je recherche davantage sa face, parce que c'est ce qu'il nous a enseigné. Il nous a enseigné à prier. Et j'ai la confiance qu'il exauce les prières. Mais écoutez ceci. Mais ça a été de telle manière que ça m'a presque amené à désespérer. Et John Newton a dit que j'espère qu'à un moment donné, qu'il répondra à ma prière. Et qu'avec sa toute-puissance, il peut dominer sur tous mes péchés et me donner la paix. Mais au lieu de cela, il m'a mené à ressentir les méchancetés cachées de mon cœur. Et il a fait en sorte que la colère de l'enfer vienne frapper mon cœur, déchire mon cœur. Plus que, au-delà de cela, en permettant aux forces de l'enfer d'attaquer mon âme, au-delà de cela, c'est comme si sa propre main était aussi sur moi. C'est comme si il voulait aggraver mes maux, mes douleurs, mais il reste Dieu. Il dit que Dieu a barré, il a éliminé tous les projets que j'ai eus. Et il a dit, Dieu a humilié mon cœur et m'a rabaissé. M'a abaissé. J'ai dit, ô Seigneur, pourquoi ceci? Et je pleurais en tremblant. Après que Dieu t'ait donné des gifles à quelques reprises, tu restes là allongé en tremblant. Seigneur, je ne suis qu'un ver, vas-tu continuer à me punir jusqu'à la mort? Il dit, Seigneur, je suis ton ver. Je suis un ver, mais je suis ton ver. Et le Seigneur lui a répondu. Le Seigneur répondit, il disait, c'est de cette manière que je exauce des prières pour la grâce et pour la faveur. Et cette lutte intérieure, lutte au-dedans, je les utilise pour te libérer de ton ego, du moi et de ton orgueil. Et briser tous tes programmes, tous tes joies, toute ta vie. Pour que tu trouves ton tout en moi. Mes amis, si une personne n'a pas encore été brisée par Dieu de cette manière, tu te retrouveras avec Noé dans l'arche. Et tu sais ce que tu feras? Tu seras un problème et une douleur pour tout le monde dans l'arche. Et c'est ça la malédiction ou le malheur dans l'Église de Jésus-Christ. Les personnes, à cause des personnes qui n'ont pas accepté de passer dans le moule de Dieu, ils disent, un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait cela, un tel a marché sur mes orteils, ils ne sont qu'un grand problème. Et tu n'es pas une bénédiction pour personne dans l'arche. Cela aurait été merveilleux et bien si tu n'étais pas dans l'arche avec Noé. Parce que vous savez, il y a un Noé céleste qui a construit l'arche, pas avec du bois, mais avec sa chair. Et il a payé avec son sang. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés au jour du jugement dernier. Pour que toi et moi soyons une bénédiction pour son Église. Mais si nous ne sommes pas prêts à entrer dans la meule de Dieu que John Newton a traversée, on peut perdre notre position privilégiée de ceux qui sont dans l'arche avec Christ. Et je deviendrai un malheur pour tout le monde, tous les autres. Je vais les haïr. Je vais les poignarder dans le dos. Et je vais rendre leur vie difficile. Oh, que le Seigneur ait pitié de toi et moi. L'arche de Christ n'est pas une blague. Pareil qu'avec Noé, il n'y avait personne pour le soutenir. Personne ne se rendait compte qu'il construisait l'arche. Personne ne savait qu'il était en train de construire l'arche. Le Seigneur Jésus-Christ, il a parlé de ça à ses disciples, mais ils ne comprenaient pas. Et quand il était sur cette croix, il était tout seul. Mais il a payé le prix qui lui a donné, le prix qui lui a donné le droit de venir vers chacun, que tu sois ici, que tu sois en Europe, ou tu sois au Paraguay ou ailleurs, pour te poser la question qui est, pauvre pécheur, m'aimes-tu? Il peut t'appeler pécheur. que tu sois président d'une nation ou roi, pour lui, tu n'es qu'un pauvre pécheur. Mais si tu l'aimes et que tu te repens et que tu viennes à lui, il peut te sauver. Nous allons prier. Merci Seigneur pour cet exemple dans ta parole. Que ça laisse une marque bien imprégnée dans notre cœur. Qu'afin que nous ne soyons plus les mêmes. Et si quelqu'un t'a entendu parler pendant ce message, appelle-le. Dis, pauvre pécheur, m'aimes-tu? Qu'il ou qu'elle entende en disant oui, Seigneur, et à courir vers toi pour le pardon des péchés, de ses péchés et pour le salut.